Je vous invite à revenir à l'échelle humaine, c'est à s'intéresser à une institution qui aujourd'hui est complètement passée aux oubliettes de l'histoire. C'est une institution qui a fait beaucoup parler d'elle en son temps, qui a été très controversée, qui a fait couler beaucoup d'encre et qui a généré des kilomètres d'archives, un peu dispersées dans toute la France, et y compris dans les fonds parisiens. Cette institution, elle s'appelle au départ le Guet de Mer. Elle évolue progressivement entre le XVIIe et le XVIIIe siècle en milice garde-côte. Et elle achève son existence, je veux dire, assez tardivement sous le règne de Louis XVI, en prenant un virage à 180 degrés, en devenant une institution qu'on appelle les canonniers garde-côtes, donc, dont la mission n'est plus tout à fait celle qui était au départ, celle du Guet de Mer. La Normandie est une province qui aligne pas loin de 600 km de linéaire côtier, donc c'est une large frontière qu'il va falloir défendre. Et une frontière, vous le savez, c'est toujours très difficile à défendre. Ce n'est absolument pas imperméable. Et puis nous sommes, comme il a été dit ce matin, très proches des côtes anglaises. On est à quelques heures de mer. Sinon, on ne comprendrait pas aujourd'hui pourquoi on a ce système de liaison transmanche aussi rapide entre la Normandie et les îles britanniques. Donc je vais orienter mon exposé en trois parties. Donc dans un premier temps, on va s'interroger, enfin, je vais faire un petit panorama sur le siècle de l'institution en elle-même, voir un petit peu les grandes étapes de son évolution. Le second temps sera consacré plutôt aux milices garde-côtes pendant la guerre de 7 ans. Pourquoi la guerre de 7 ans ? Parce que c'est l'époque qui cristallise, je dirais, toutes les tensions, toutes les difficultés, et c'est ce qui va donner véritablement naissance à la milice garde-côte comme une véritable troupe militaire avec toute une codification très très pointue. Et puis nous verrons justement pendant la guerre de 7 ans, ces garde-côtes aux prises avec les Anglais dans différentes occasions qui ont été relativement nombreuses en Normandie pour les plus connues, même s'il y a des choses qui ont dû se passer et qui n'ont pas laissé de traces dans les archives ou si peu. Alors, le Guet de Mer, c'est une institution qui est d'abord médiévale. On trouve les premières traces du Guet de Mer dans un capitulaire de Charlemagne qui remonte à 811 et qui rappelle l'obligation pour les populations franques d'assurer ce qu'on appelle l'obligation de guet et de garde sur les côtes, hein, ce qu'on dit en saxon wacta et warda. To watch en anglais veut dire surveiller, observer, et warden en anglais c'est le gardien, donc du point de vue linguistique, on s'y retrouve. Et justement, cette obligation apparaît ou est rappelée au moment où l'Empire carolingien est aux prises avec les premières invasions scandinaves. Bon, si la Normandie existe, c'est parce que, quelque part, cette défense n'a pas bien fonctionné. Et elle persiste cependant tout au long du Moyen-Âge. On la retrouve, Éric Barret l'a montré dans un très intéressant article, on la retrouve au Moyen-Âge pendant la guerre de Cent Ans, où elle est dirigée par des seigneurs locaux ou des officiers royaux. Et puis, pour ceux qui connaissent et qui apprécient l'histoire du sire de Gouberville, on arpente les côtes du Cotentin au XVIe siècle avec une arbalète, qui est une arme généralement réservée à la chasse, pour... on va dire, non pas se soustraire, mais au contraire être tenu de respecter et de se conformer aux exigences du Guet de Mer. Alors le XVIe siècle, c'est certainement le point de départ d'une longue codification. L'ordonnance la plus importante, c'est l'édit précisément de 1584, l'édit de l'amiral, qui oblige, je cite, « tous les habitants de la côte de la mer » vivant jusqu'à 2000 lieues, loin d'Issel, à faire le guet sur la dite côte ensemble. Alors, il n'y a pas proprement parlé de distinction pour l'instant entre les gens de mer et les autres, hein, ceux qui n'exercent pas le métier de marin. Et l'obligation est surtout, consiste à deux revues annuelles, où chacun doit se présenter armé et embastonné, c'est-à-dire pour les plus riches, doté d'un équipement relativement efficace, une arme à feu, une épée, et pour les plus pauvres, un gourdin relativement solide, au cas où il serait amené à s'en servir, hein, parce qu'une arme à feu est une véritable dépense pour les particuliers. Et l'emprise de l'État s'affirme de plus en plus sur cette institution avec la grande ordonnance de la marine de 1681, qui est un petit peu la reprise en main aussi des affaires du royaume par Colbert, et qui va, on va dire, quelque part, rendre l'institution plus contrôlée, mettant en place tout simplement un plumitif, hein, un clerc du guet, qui lui est un petit peu tenu de faire le tour des absents, parce que c'est une véritable contrainte, et les absents sont taxés à la hauteur d'une vingtaine de sols pour leur absentéisme, 30 sols, pardon. Et les exigences de l'armement se font plus lourdes. Il s'agit, comme le rappelle l'ordonnance, de se doter désormais d'un mousquet ou fusil. Il semblerait que les deux, d'ailleurs, existaient. Une épée, une demi-livre de poudre et 2 livres de balles. Et chacun obligé de se tenir à jour dans cet achat à peine de 5 livres d'amende. Évidemment, un idéal qui n'est pas à la portée de tout le monde. Mais la valeur militaire de cette institution laisse perplexe un certain nombre d'officiers, à commencer par les officiers de marine et les officiers de l'armée de terre, qui considèrent que ces gens sont, on va dire, des poltrons au carré. Hein, on n'a pas beaucoup confiance dans ces hommes. Trop prompts à jeter leurs armes et à s'enfuir à la vue d'une chaloupe. Ça, c'est une phrase que l'on doit à Benjamin Decombe. Pourtant, c'est une institution qui va faire l'objet d'une législation très, 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 très pointilleuse, très attentive et répétée tout au long de l'Ancien Régime par le pouvoir royal. Une institution qui va être rénovée. Ça commence pendant la guerre de succession d'Espagne, qui est un conflit assez calamiteux. Il n'y a plus grand-chose qui flotte. Et on fait vraiment feu de tout bois. On va tirer de ce guet de mer, qui est une espèce d'assemblée de gens mal équipés, pas toujours prompts à se présenter aux revues. On va en faire une sorte d'élite. On va essayer de retirer, on va dire, la substantifique moelle de cette masse de gens et d'en faire une troupe à peu près capable de combattre. On va former ce qu'on appelle les compagnies franches, garde-côtes, qui sont probablement imitées sur les compagnies franches de la marine, qui sont les petites mains de la marine à cette époque-là, même si on ne connaît pas tout à fait comment véritablement tout cela s'est mis en place, il faut savoir qu'on va mettre surtout en place, pour bien discerner les gens du guet de cette nouvelle élite, un tirage au sort. On va les recruter par tirage au sort, ce qui est un système qui est emprunté à la milice de terre, hein, qui date de 1688, et qui est un système extrêmement impopulaire parce que c'est vecteur de beaucoup d'inégalités. Cette réforme se poursuit et il s'agit en fait de faire 10 soldats là où il y avait 100 paysans. Cette réforme se poursuit sous la Régence avec des textes assez novateurs. En particulier, la question de l'armement est évoquée. On cherche à donner à ces hommes un armement plus cohérent, plus uniforme, mais là, ça reste des vœux pieux. Et puis surtout, on s'intéresse aux circonscriptions, c'est-à-dire où est-ce qu'on va chercher ces hommes qui sont censés protéger la côte en cas de guerre. Eh bien, sont mises en place ce qu'on appelle des capitaineries. Alors, si vous pouvez nous montrer la carte. Voilà, ça c'est un découpage, c'est un maillage qui date de la guerre de 7 ans, mais vous voyez que c'est, à cette époque-là, une espèce de longue bande littorale qui court donc entre le bord de la mer et à peu près une quinzaine de kilomètres à l'intérieur des terres, et qui comprend un certain nombre de paroisses. Alors ces capitaineries ont d'ailleurs une tendance à se dilater de plus en plus, hein, au fur et à mesure du temps, de plus en plus vers l'arrière-pays, pour un certain nombre de raisons qu'on va évoquer tout à l'heure. Donc on prend des gens très loin dans l'intérieur des terres pour défendre la côte. Alors comment expliquer justement cette extension vers la pleine terre pour des paroisses qui a priori n'ont rien à voir avec le monde maritime? Peut-être qu'il s'agit d'augmenter le nombre d'hommes sur le littoral en cas d'attaque. Parce qu'on a remarqué à plusieurs reprises que lorsque finalement les Français sont très nombreux sur la côte, après avoir essuyé des tirs et des bombardements, les Anglais sont plus hésitants à mettre du monde à terre parce qu'ils se rendent compte que ça va très certainement très mal tourner pour eux. Ils ont encore à l'esprit ce qui s'est passé à Camaret, où ils ont vraiment été mis en pièces. Pardon, ils ont été mis en pièces sur le rivage. Et finalement, à Dieppe en 1694, les Anglais se retirent bien contents d'avoir mis le feu au port, à la ville, mais ils vont pas aller au-delà parce qu'ils savent que Donc sur le, ça risque de très mal se passer pour eux. Eh bien, je pense que cette extension vers l'intérieur du plat pays est peut-être liée aux saignées qui ont eu lieu donc, dans les paroisses littorales avec la guerre de succession d'Espagne. Et peut-être aussi parce que il y avait probablement plus assez d'hommes, donc on est allé chercher des forces vives un petit peu plus loin. Puis il ne faut pas oublier que les paroisses littorales, elles sont aussi sollicitées pour les équipages de la mer. Hein. Donc nécessairement, la marine ponctionne aussi son lot d'hommes. Et il faut trouver, bonhomme à l'an, de quoi alimenter ses compagnies. Les gens qui exercent une profession donc non maritime, et puis donc pour les gens qui, par exemple, sont originaires de Troarn, c'est clair que ce sont des laboureurs, hein, manifestement. Alors, ce qui va un petit peu échauder les concepteurs de ces compagnies franches, c'est l'affaire de Quiberon en 1746. Le duc de Penthièvre, justement, après cette défaite française, écrit « J'ai reconnu par moi-même le peu de fond qu'il y avoit à faire sur des paysans garde-côtes indisciplinés, mal armés, mal vêtus, la plupart n'ayant que des sabots au lieu de souliers, et à leur tête des officiers sans compétences. L'état où j'ai trouvé ces paysans, sous le nom de compagnie détachée, m'a paru bien différent du tableau que l'on m'en avait fait. » Et à la prochaine guerre, c'est-à-dire celle de 7 ans, entre 56 et 63, eh bien, l'institution fait encore peau neuve. Alors, c'est vraiment le point d'orgue de sa mutation. Alors, en plus, on est dans des circonstances politiques qui font que la France se bat partout. Vous savez bien que la guerre de 7 ans est un conflit mondial. On se bat sur mer, on se bat sur le continent, on se bat dans les colonies. Et évidemment, la France étant engagée en particulier sur le continent contre les forces prussiennes, il faut trouver des hommes pour garnir les côtes, puisque les Anglais, justement, n'ont pas perdu cette mauvaise habitude qui consiste à venir régulièrement visiter les côtes françaises pour semer l'effroi. Et ce qui d'ailleurs permet de maintenir des troupes sur la côte pendant, et donc de limiter les effectifs sur le continent contre les forces de Frédéric II. Et donc l'idée est encore de développer davantage cette institution qui va faire peau neuve. Alors le texte est une ordonnance du mois de mars 1756. Alors on revoit d'abord le maillage des capitaineries qui se retrouve donc subdivisé en trois inspections, la haute Normandie, la moyenne Normandie et la basse Normandie. Alors la basse Normandie, c'est essentiellement le département de la Manche. La moyenne Normandie, c'est toutes les côtes du Calvados. Et la haute Normandie, bon, c'est jusqu'au Tréport. 34 capitaineries. Toujours le système du tirage au sort. Des compagnies qui sont fixées à 80 hommes. Et puis la question de l'armement, courageusement ou peut-être un peu audacieusement, le pouvoir royal décide de donner un fusil réglementaire à chaque soldat, ce qui est une dépense considérable. Et curieusement, ce n'est pas un marin qui va être à la tête de ces milices garde-côtes, qui sont censés protéger le littoral, mais c'est un militaire, c'est le maréchal de Belle-Île, à qui le roi a confié donc le commandement sur les côtes de l'océan. Et qui donc a la responsabilité de tout le Ponant. En 1758, cette milice garde-côte finalement est versée prend le rang d'infanterie garde-côte. Et en 1759, je dirais que l'union est consommée puisqu'elle devient à part entière. Enfin, c'est le service de l'armée qui va. Elle passe finalement de la marine à l'armée et c'est désormais donc le ministère de la guerre qui va s'occuper de ces hommes. Parce que quelque part, on est face à une force terrestre qui n'a pas grand-chose de maritime, et presque même plus en recrutement. Et ces hommes, donc, ont changé de maître. 1778, une autre date, c'est la naissance des canonniers garde-côtes. Il n'est plus question de milice, parce que le mot, on est sous Louis XVI, et on sent très bien que dans l'épée texte qui est l'ordonnance du mois de décembre 78, on sent très bien qu'on comprend des précautions oratoires. Le roi entend rendre le service à la côte le moins à charge qu'il sera possible à ses peuples, n'exiger d'eux que celui qu'ils sont en état de rendre en l'établissant sur des principes modérés. On voit, il y a un effort du pouvoir central parce que la milice garde-côte de la guerre de 7 ans a rencontré un certain nombre de difficultés. L'appellation donc de canonnier garde-côte est plus gratifiante. Donc disparaît le terme de milice. Et le rôle des canonniers garde-côte n'est plus finalement de combattre en unité mobile, mais plutôt de rester attachés à leur batterie et de canonner tout ce qui se présentera, pour la simple raison, c'est que désormais, la marine française est de nouveau sur pied, elle a de nouveau des escadres de combat, et il n'est plus nécessaire de maintenir sous les armes des milliers d'hommes à terre. Donc, des batteries fixes, bien entretenues, un service uniquement en temps de guerre, pas besoin de faire des revues en temps de paix, et des compagnies qui sont réduites à 50 hommes. Alors, il y a un effort aussi qui est fait du point de vue, des contrôles, puisque se tiennent des registres de signalement avec des choses qui sont très proches de l'inscription maritime, puisqu'on a des données anthropométriques. Et c'est voilà le tour d'horizon de cette institution qui va encore exister sous la Révolution et l'Empire et qui petit à petit va disparaître. Alors intéressons-nous, si vous le voulez bien, maintenant au ministre garde-côte pendant la guerre de 7 ans. Le nouveau mode de recrutement, c'est le tirage au sort. Le service à la côte, c'est une contrainte qui concerne tous les hommes de 16 à 60 ans qui sont domiciliés dans le ressort des 34 capitaineries qui s'étalent donc entre le Tréport et la baie du Mont-Saint-Michel et qui, bien sûr, n'exercent pas de profession maritime. Alors c'est donc de ce stock de terriens que sont extraites les compagnies détachées sur la base de plusieurs critères physiques et sociaux. L'âge, c'est le premier critère, puisqu'il s'agit d'hommes jeunes. Dans les compagnies, on a entre 16 et 45 ans. Alors que dans la milice de terre, l'âge maximum, c'est 40 ans. En principe, ce sont tous des garçons, c'est-à-dire des célibataires. Mais on trouve aussi des pères de famille. Quand les effectifs sont insuffisants, il faut les compléter. Donc on prend dans la classe des pères de famille. La hauteur minimum, c'est 1,62 m sans chaussures. Alors, quand il n'y a pas ce qu'il faut, bien on peut également enrôler des gens, recruter des gens qui sont plus petits. J'ai trouvé, par exemple, dans la capitainerie d'Anel, un maréchal ferrant de 39 ans, qu'on dit donc qu'il n'est pas d'espérance, c'est-à-dire qu'il ne va pas grandir, et qui mesure 1,39 m. C'est-à-dire qu'il est beaucoup plus petit que son fusil. Un homme d'1,39 m. Vous voyez qu'on est parfois loin des prescriptions des textes. Alors, ça, c'est pour le stock, on va dire, de jeunes hommes. Ce qui rend le système très, très désagréable, alors peut-être un mot sur la manière dont on tire. Généralement, c'est l'intendant qui s'occupe, ou son subdélégué qui fait le nécessaire. Donc, c'est l'autorité civile qui, finalement, est chargée de cette opération. On tient dans un chapeau un certain nombre de billets. Alors, il y a le billet blanc, c'est-à-dire qu'il est absolument vierge. Et puis, il y a le billet noir, qui est noirci, en fait, d'une inscription du style « Vive le roi, je suis enrôlé, génial, je suis bon pour le service ». Et donc, le miliciable en puissance prend dans le chapeau et tire ou ne tire pas le bon numéro, comme on disait au XIXe siècle, puisque c'est un système qui a longtemps existé après. Et voilà un homme qui, donc, en ayant tiré le mauvais numéro, en tout cas le billet noir, eh bien, est de fait milicien garde-côte. Sauf que tout le monde ne devient pas milicien garde-côte, puisqu'il y a un certain nombre d'exemptés. D'ailleurs, la plupart des exemptions, bon, bien sûr, il y a des exemptions physiques, parce que quand on fait moins d'1,39 m, ça, c'est sûr qu'on ne peut pas rentrer. Quand on a plus de 60 ans ou plus de 45 ans, on ne peut pas rentrer dans les compagnies détachées, mais c'est surtout des questions sociales, les exemptions sociales. Alors, bien sûr, il y a tous les membres de l'aristocratie, la noblesse, les gens d'église, mais aussi d'autres professions, les chirurgiens, les valets des ecclésiastiques, les domestiques à livrer, les syndics de paroisse, les collecteurs d'étail, préposés au recouvrement des vingtièmes, et l'intendant à la toute discrétion pour allonger la liste, ce dont ne se prive pas l'intendant monsieur de Fontette, l'intendant de Caen, qui rajoute telle et telle profession, si bien qu'au bout d'un moment, le stock diminue, et que c'est donc sur une minorité que le service se met à peser. Alors, il y a plusieurs moyens de se soustraire à la milice. Il y a le mariage éclair. Ça, c'est, même les célibataires les plus endurcis, tout d'un coup, se mettent à convoler en juste noce. Il y a le piston, le personnage qui sont influents, qui vont vous trouver un remplaçant à prix d'argent. Ou alors, effectivement, c'est chasser, partir à la chasse à l'homme, c'est-à-dire essayer de récupérer un type qui s'est déjà enfui de la milice de terre. Et donc, si on arrive à se faire remplacer en attrapant un fuyard, c'est très bien, on a absolument été épargné. Par contre, si le fuyard s'enfuit de nouveau, vous êtes obligé de servir. Donc c'est un système assez vicieux. Et justement, ce conseil de révision en plein air qui a lieu dans les paroisses quand il faut tirer à la milice, est tel que c'est une ambiance qui est assez détestable. Et d'ailleurs, M. de Fontaine déclare, on ne peut pas être moins jaloux de rester chargé d'une opération aussi fatigante et aussi désagréable. D'ailleurs, ça dure parfois très longtemps. J'ai trouvé des procès-verbaux où le subdélégué a marqué qu'il était 7 heures du soir et donc il était hors de question de le remplir. Il avait autre chose à faire. Donc c'est pour ça qu'on a parfois des archives qui sont très, 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 très mal renseignées. Alors souvent, le subdélégué est accompagné, bien sûr, de quelques archers de la maréchaussée. Ça peut servir. Et puis d'un chirurgien qui observe un petit peu, qui examine un peu les candidats qui ne sont pas du tout volontaires, pour voir si justement ils sont tout à fait aptes à être miliciens. Et lorsque l'homme a tiré un billet noir, eh bien, il intègre sa compagnie pour 5, puis 6 années, parce que le service est un peu alourdi pendant la guerre, 6 années consécutives. Alors, si on fait un petit tour d'horizon, à quoi ressemble le milicien garde-côte de Basse-Normandie ou de Moyenne-Normandie? C'est plutôt un célibataire, âgé entre 17 et 18 ans, légèrement plus grand que la taille réglementaire. On a des hommes qui vont jusqu'à 1m65. Bon, il y a aussi des plus petits, on l'a dit. Et du point de vue social, ce sont plutôt soit des domestiques agricoles ou des laboureurs. Donc, c'est-à-dire des gens qui appartiennent au monde rural, bien sûr, mais soit aux franges les plus modestes ou aux laboureurs quand même. C'est une position non négligeable. Alors, en dépit de toutes les exemptions, de toutes ces maladies, de tous ces gens qui cherchent à fuir le service, la Normandie peut quand même aligner un nombre non négligeable d'hommes. On a un chiffre pour 1762, pour l'ensemble de la Normandie, 62 810 soldats détachés ou miliciens détachés, c'est-à-dire à peu près la population de deux villes moyennes de cette époque-là, et puis à peu près 47 610 soldats du guet, parce qu'ils existent toujours. C'est ceux qui sont trop jeunes pour entrer dans les compagnies détachées ou qui sont trop vieux. Alors on parle de vieux corps. C'est une expression peu flatteuse, mais qu'on emprunte à l'armée de terre. Donc 47 610 vieux corps et 15 200 détachés, ce qui est plus modeste. Mais c'est un poids assez lourd pour la Normandie, puisque nous sommes dans une province frontière. La Normandie, comme d'autres provinces frontières, fournit la terre, elle fournit la marine, et elle doit fournir aussi à la milice garde-côte. Donc les ponctions en hommes sont quand même très importantes dans ces provinces. L'encadrement, lui, il est très simple. Pour les officiers subalternes des compagnies, ce sont la plupart du temps soit des gentilshommes qui ont servi, donc ce sont des jeunes retraités de l'armée, ou alors des gens qu'on appelle en Bretagne les officiers de bigorneau, c'est-à-dire des gens qui n'ont jamais eu l'occasion de servir dans l'armée, ou alors qui n'ont fait qu'une carrière assez modeste dans la garde-côte. C'est-à-dire que c'est dire si leurs compétences sont relativement peu étendues. À l'échelon de la capitainerie, donc les capitaines généraux sont aussi la plupart du temps des gentilshommes et des officiers qui ont servi plusieurs années dans différents corps de l'armée, que ce soit dans les dragons ou dans l'infanterie. Et puis au-dessus, vous avez les inspecteurs, il y en a trois pour la Normandie, la haute, la moyenne et la basse. Une charge qui est très lucrative, mais qui va assez vite disparaître. Elle est supprimée en 1761. Voilà à quoi ressemble notre milicien garde-côte. Voilà, c'est un habit qui est très proche de celui des compagnies franches de la marine et assez proche de celui qui est en usage dans l'infanterie à la même époque. Alors vous voyez la framboise, hein, puisque quand on est milicien garde-côte, on prend le nom de guerre qu'on vous donne. Alors on trouve des la framboise, va de bon cœur, et puis aussi vide bouteille. Ça, c'est donc ce qui donne un petite idée du caractère de ces gens. Donc un uniforme qui, sur le papier, est absolument remarquable. Bon, c'est une version simplifiée de ce qu'on trouve dans l'armée. Bon, enfin, ça donne quand même une fière allure. Sauf que les fabricants, les marchands traitants, tirent un peu sur la qualité. Et parfois, on s'aperçoit que, par exemple, dans les capitaineries de Haute-Normandie, les uniformes sont à peine cousus. Il n'y a pas de doublure. Les manches sont trop courtes. Donc, cette vision un peu idéaliste, ou un peu idéalisé du garde-côte, je pense, est assez loin de la réalité, en particulier pour les chaussures, puisque manifestement, beaucoup d'hommes venaient en sabots. Donc on est plus proche de l'image du soldat français de l'an 2, hein, presque en guenilles et en sabots, que de la belle gravure qui, justement, était au début de cette communication que l'on doit à Alfred de Marbeau. Alors les officiers ont un uniforme beaucoup plus soigné, bien sûr, et qui se porte avec, c'est la marque distinctive, le hausse-col, c'est-à-dire une espèce de croissant de métal avec marqué aux armes du roi, et qu'ils doivent justement porter pour bien montrer leur fonction. Et on les distingue assez peu, si ce n'est que peut-être le port de l'épée, mais comme leurs hommes, ils portent également un fusil. Hein, ça, c'est une disposition qui date dans l'armée de 1710. Alors l'uniforme, ça a plusieurs vertus. Ça permet d'abord aux hommes de comprendre qu'ils sont là dans un cadre militaire. Ça donne plus de cohérence à une troupe. Au moins, on est à peu près identique à son voisin. Et puis ça a peut-être permis à un certain nombre d'hommes qui sont tombés aux mains des Anglais d'échapper à une exécution sommaire à Saint-Ca, hein, en septembre 1758. Les Anglais donc descendent et massacre plusieurs habitants, considérant qu'il était, je cite, « contre toutes les règles de la guerre et de la bienséance que des paysans sans ordre ni commandement insultassent une armée comme ces canailles l'avaient fait au guildeau à la faveur du poste dont ils jouissaient ». C'est-à-dire que l'uniforme est une protection. On n'est pas encore à l'époque de la Convention de Genève, mais ça permet de mettre à l'abri celui qui le porte. Alors, quant à l'armement, le duc de Milly a fait fabriquer 40 000 fusils tout neufs, qui sont probablement des fusils qui sont fabriqués à Liège. C'est-à-dire que ce sont des modèles qui sont inspirés des modèles réglementaires français, mais qui sont certainement moins chers. Et puis, pour équiper nos gardes-côtes, eh bien, d'après ce que j'ai pu voir, alors, sans rentrer dans le détail, on a plutôt des fusils de bonne qualité. C'est des fusils donc, qui tirent, qu'on dit, de calibre de 18 livres de balles. Hein. Donc ça tire une munition qui fait à peu près une vingtaine de grammes. Et donc c'est du calibre 16, pour faire simple. C'est le fusil modèle 1728, qui est l'arme la plus belle certainement produite par les arsenaux français, même si certaines compagnies sont dotées d'armements qui sont, semble-t-il, vraiment raclés des fonds d'arsenaux avec des baïonnettes tordues ou qui ne rentrent pas, qui ne s'adaptent pas sur les canons des armes. C'est-à-dire si on a parfois été très loin pour armer ces hommes. Donc, dans l'idéal, c'est un beau fusil. Dans les compagnies, on trouve de tout. Donc, probablement un mélange de fusils réglementaires français, pas des derniers modèles, mais quand même du solide, des armes un peu rafistolées, et puis beaucoup de fusils de liégeois, quoi, donc probablement moins chers. Chaque homme dispose d'une giberne, c'est-à-dire une sorte de cartable, on va dire, un peu une poche à cartouches, et puis d'un nécessaire d'entretien. Pas d'armes blanches, si ce n'est la baïonnette. Tous les fusils, c'est la grande nouveauté, sont numérotés, sont poinçonnés, ils sont conservés d'abord, sont serrés dans des chambres. Alors, par exemple, normalement, c'est un magasin d'armes, mais quand il n'y en a pas, on utilise la chapelle du manoir de tel ou tel seigneur. À Creully, dans le bourg de Creully, c'est une chambre louée à un particulier. Parce qu'on sait très bien que les fusils des gardes-côtes, parfois, servent à d'autres usages que celui du roi. En particulier, beaucoup d'ordonnances dénoncent ces hommes qui utilisent les fusils pour aller chasser ou braconner, et qu'on a du mal à récupérer. Alors les plus coriaces sont ceux de la capitainerie de Port-en-Bessin. Il faut une ordonnance royale, véritablement, pour réclamer ces fusils qui ont tendance à servir à d'autres choses, y compris à poivrer les employés des fermes qui seraient tentés d'empêcher nos gardes-côtes de faire de la contrebande. Alors ce sont des choses qui sont assez récurrentes. Donc dans un premier temps, ces armes vont être à l'abri, protégées, l'officier-major à la clé. Et puis à partir de 1758, certainement après les premiers événements, un peu lourds, en particulier après la descente des Anglais à Cherbourg, eh bien ces armes sont confiées directement aux miliciens. Alors à lui, plus ou moins, de s'en servir, bien sûr, pour la guerre. Et ce qui fait que beaucoup de ces fusils sont en triste état à la fin des hostilités parce que, bien sûr, elles n'ont pas été aussi bien entretenues que par l'armurier ou les armuriers désignés, à commencer par celui qui œuvrait au château de Caen. Alors, une fois que ces hommes ont un armement, un équipement, ils doivent aussi faire un certain nombre de choses. Parce qu'être militaire, avoir l'uniforme du militaire, c'est bien, mais il y a aussi des contraintes qui sont beaucoup plus désagréables. Ça commence par un service assez lourd. Chaque dimanche, hein, on pourra dire que notre garde-côte est un soldat du dimanche, chaque dimanche, le garde-côte est tenu de s'exercer avec tous les hommes de sa compagnie, par escouade, puis par compagnie, après la messe. Donc c'est un exercice que tout un chacun aime faire, bien sûr. Et il y a une revue mensuelle, le premier de chaque dimanche, à l'échelle de la compagnie, et deux revues générales à l'échelle de la capitainerie par an. Donc c'est pour que les hommes, déjà, apprennent à marcher, à distinguer leur droite de leur gauche, parce qu'il s'agit de faire des évolutions, c'est de l'ordre serré, comme on dit aujourd'hui, et puis aussi manier les armes. Alors si certains savent très bien s'en servir, ils l'ont montré contre les douaniers, d'autres, au contraire, ont peur de leurs fusils. Et ça peut donner parfois lieu à des accidents assez tragiques. Le service de garde est coupé en deux saisons. C'est-à-dire qu'on a un hiver qui dure 6 mois et un été qui dure 6 mois. Alors pendant l'hiver, c'est-à-dire là où il y a très peu de chances qu'il y ait des descentes des Anglais, ce sont les vieux corps, ce sont les hommes du gué de mer, les genoux et les vieillards qui s'occupent de faire la garde sur la côte. Et pendant le service d'été, donc, du 1er avril au 1er novembre, ce sont les hommes des compagnies détachées. Parce que l'été, c'est à la fois le temps des moissons, mais c'est aussi le temps des insultes, c'est-à-dire le temps des attaques anglaises. C'est là où le temps est meilleur, et donc c'est là où le risque est le maximum. Donc autant mettre des hommes plus mieux équipés et un peu plus aguerris sur le terrain. Voilà un petit exemple, parce que toute la Normandie n'est pas représentée, malheureusement. Voilà la carte des principales fortifications qu'on trouve sur les côtes normandes au moment de la guerre de 7 ans, avec des bâtiments qui sont de différentes époques. On retrouve bien sûr nos redoutes rectangulaires ou carrées de Vauban de ce matin. On retrouve aussi des forts plus importants, les tours de Tatillou et les petits corps de garde qui sont ces constructions très nombreuses, en particulier sur la côte du Calvados. Et qui servent donc de points de. Qui sont des. Oui, ce sont des lieux où sont installés les gardes-côtes pour la veille, en particulier la nuit. Alors on va voir un petit peu à quoi ça ressemblait. Oui, donc voilà, ça c'est la capitainerie de Grand Camp. Ça vous montre justement où sont installés sur cette capitainerie la plupart des postes côtiers. Mais le document qui vient après est plus intéressant. Alors, faut pas se fier au titre, ce corps de garde. Où ces restes de corps de garde n'appartiennent pas au camp de César. Ça, c'est une légende qui était très en vogue à l'époque des bains de mer, où on baptisait à peu près toutes les ruines. On les datait quasiment soit du Moyen-Âge, soit de l'époque antique. En fait, ce corps de garde, qui est aujourd'hui dans le même état, ce qui est assez exceptionnel, c'est un corps de garde d'avis, on en parlait ce matin, ou corps de garde découverte. C'est celui de Deauville. Il est sur une éminence, il est à plusieurs centaines de mètres, et il permet donc de découvrir la mer. Ce corps de garde est en pierre, vous voyez, même le toit est en pierre, et il servait donc aux vieux corps qui avaient pour mission, eux, d'observer la mer, mais aussi, en cas d'alarme, en cas d'attaque, de répercuter une alarme, alors soit par des feux, ou en faisant de la fumée, alors fumée blanche, hein, ça nous rappelle... Les signaux des Indiens ou des Amérindiens dans les westerns, fumée blanche, on n'avait pas encore des vieux pneus à brûler pour faire des fumées considérables, mais on y avait un stock, c'était prévu par les ordonnances, avoir un stock de bois à proximité du corps de garde pour déclencher comme ça des incendies. C'est pratiquement un très vieux système de communication. Alors peut-être qu'avec du bois mouillé, on avait une belle fumée blanche. Ou alors, il y avait un système de pavillons plus complexe. Donc, voici un petit exemple. Donc ça, c'est un dessin assez savoureux que j'ai trouvé aux archives du Calvados, et où vous voyez donc un homme, probablement des vieux corps, parce qu'il est en costume civil. Hein, il porte le juste corps marron, qui est à peu près similaire à celui que portait Damien quand il a poignardé Louis XV. Vous avez donc ces panneaux, ces drapeaux ou ces pavillons qui servent à indiquer. Alors, en fonction de la couleur, on n'a pas du tout le même message. Il y a une procédure assez déterminée, assez simple. Quand c'est un ennemi, c'est drapeau rouge. Quand c'est un corsaire, c'est drapeau bleu. Enfin bref. Alors, en fonction du nombre de navires, si c'est 10 corsaires, il faut lever et monter 10 fois le drapeau. Et on communique comme ça de poste en poste jusqu'à ce que l'alarme se répercute. On sonne bien sûr le tocsin, on rameute tout le monde. Enfin, c'est une vraie pagaille. Et tout le monde converge sur la côte pour recevoir les Anglais, même si on n'est pas bien sûr de soi. Donc c'est un système très complexe, hein, mais qui fonctionne. Alors ça, c'est pour les corps de garde d'avis ou de découverte, c'est-à-dire que ce ne sont pas des corps de garde de défense. Ce sont juste des hommes qui sont là pour veiller, faire la veille sur la côte, et puis ensuite communiquer l'information qui est répercutée par le tocsin à l'intérieur de chaque paroisse. Enfin, c'est... Les corps de garde de défense... En voici un. Alors, la photo a quelques années. Nous sommes à Lainverville. On est très près donc de Blainville. On est sur la Manche Ouest. Voilà un exemple assez bien conservé d'un corps de garde. Alors, celui-là est assez spacieux. Il fait 10 mètres carrés de superficie à l'intérieur, mais 10 mètres carrés sans rien. C'est-à-dire que si on rajoute un lit de camp, une table, des bancs, on devient un râtelier d'armes. On est un peu plus serré à l'intérieur. La plupart du temps, on a à peu près entre 5-6 mètres carrés, ce qui est à peu près, c'est un peu, l'image est un peu facile, mais c'est en gros la superficie d'un igloo, quoi. C'est relativement modeste. Alors vous voyez que la structure est en pierre, le toit y compris, c'est voûté d'ailleurs, c'est à l'épreuve de la bombe, hein, comme on le dit, hein. C'est-à-dire que c'est capable de supporter des éclats ou des boulets. Et si on rentre à l'intérieur, alors peut-être on peut le regarder de face, voilà. Alors malheureusement, celui-ci, le linteau est millésimé 1744. C'est un linteau qui a été refait parce qu'il y a un indélicat ou des indélicats qui ont prélevé le linteau original. Le bâtiment a été restauré il y a quelques années, une restauration qui a le mérite d'exister, mais qui a été faite sans fouille. À l'intérieur, c'est pas très heureux, à mon sens. Alors ces corps de garde sont relativement confortables. À l'intérieur, on trouve un lit de camp, une table, un râtelier d'armes, des bancs, une cruche. Il y a tout le détail qui est affiché à l'intérieur de la porte. Hein. S'il y a un truc de cassé, c'est comme à l'internat, vous êtes obligé de rembourser. L'intendant fournit le chauffage et la lumière. Et puis à l'extérieur, on trouve une guérite en bois de sapin. Dans la partie écroulée, on voit très bien la structure ogivale, hein, du voûtement. Ce qui a donné lieu d'ailleurs à une réutilisation complètement inattendue, puisque au XIXe siècle, ce petit corps de garde qui a connu le feu véritablement, hein, puisque c'est là où il y a eu des événements en 1762, a été transformé en chapelle, est devenu Notre-Dame des Dunes. Vous avez à l'intérieur une fausse grotte avec une statue de la Vierge. Et puis je ne sais pas si vous apercevez au sommet, là sur le pignon, une petite croix en métal. Donc Notre-Dame des Dunes que l'occupant nazi n'a pas ménagé, puisqu'il l'a fait tout simplement disparaître, parce qu'elle était, cette petite chapelle ex-corps de garde, dans l'axe certainement des batteries allemandes. Donc beaucoup de ces constructions d'ailleurs ont disparu pendant la Seconde Guerre mondiale, hein, puisque la côte, c'est un peu un palimpseste où les fortifications se sont superposées parfois, ou ont été réemployées. À l'extérieur de ces bâtiments, il y a souvent une guérite en bois, alors qui peut être passée au minium de plomb rouge ou qui peut être noircie au goudron. Voilà une petite reconstitution avec notre ami la framboise. Vous voyez que c'est un système à clin. Hein, c'est reconstruit à l'échelle. J'ai trouvé les mesures aux archives. Donc j'ai fait refaire la construction par un ami maquettiste. Et ça repose sur une croix en bois. Donc c'est isolé du sol. Et c'est là où la sentinelle, généralement, passait le meilleur de son temps à l'extérieur. Parfois, on a des cas où le mauvais temps et la paresse faisaient que la sentinelle rentrait à l'intérieur du corps de garde et se mettait à boire avec le reste de la compagnie, ce qui pouvait rendre certaines situations assez tragicomiques. On sait par exemple qu'en 1762, lorsque les Anglais attaquent Ouistreham, la sentinelle s'est endormie dans sa guérite. Donc ça devait être relativement confortable. En tout cas, on était à l'abri du vent. Alors, ces corps de garde peuvent également servir de salle de police, parce que les gardes-côtes ne sont pas des gens qui sont faciles à manier. Par exemple, dans la capitainerie de Ouistreham, il y a 7 gardes-côtes qui sont venus pour l'exercice. Normalement, il devrait y en avoir 20. Et ils sont punis, ils sont en salle de police, donc dans un des corps de garde, parce qu'ils ont envoyé faire F, leur sergent, pour qui voulait justement les obliger à faire l'exercice. Ce qui compliquait le système, parce que justement, on était dans une configuration où le service devenait de plus en plus lourd. On était dans un régime militaire, ce qui ne convenait pas aux populations civiles. Ils faisaient un petit peu la découverte du service militaire obligatoire. Et puis, il y a des fatigues. Il faut faire des exercices, il faut se déplacer à pied jusqu'au corps de garde. Quand on habite à 12 km, ça fait 24 km aller-retour. Et vous avez en plus des déplacements le long de la capitainerie pour surveiller la mer. Donc il y a toute une série de contraintes physiques qui font que il y a des gens qui essayent de s'y soustraire. Le moment le plus critique, c'est l'été, puisque l'été, c'est un moment pour les moissons, et la plupart sont des agriculteurs, donc ils font le choix de s'occuper plutôt de leur terre et de leur moisson, de leur récolte, plutôt que d'aller sur la côte. Et ça a d'ailleurs été assez problématique lorsqu'à Port-en-Bessin, les Anglais sont arrivés et que quelques hommes étaient là seulement, et l'officier d'expliquer que les autres étaient occupés à faire les foins. La défense donc ne pouvait pas fonctionner correctement. Alors justement, parlons dans ce troisième point des attaques anglaises sur nos côtes. Globalement, on a eu affaire à deux types d'incursions. D'abord, des incursions de corsaires, jerseyais et guernesiais pour la plupart, parfois anglais. Donc des opérations relativement modestes qui servent plutôt à faire du butin. Quelques 12 moutons, par exemple, sont confisqués ou volés ou pris par des corsaires sur la côte donc Petit Havre de Surville. Mais les autres attaques, les autres descentes ou insultes, comme on dit à l'époque, sont plutôt des opérations de plus grande envergure qui sont menées par la Navy et qui visent tout simplement à détruire les nids de guêpes, hein, les nids de corsaires que sont les ports normands ou les ports bretons. Alors ça sera à Cherbourg, par exemple, en 1758. Mais 2 ans auparavant, c'était les petites îles, c'était Chausey qui avait été mis à mal. Et là encore, les Anglais avaient forcé les ouvriers français à détruire le fort qu'ils étaient en train de bâtir sur l'île. Alors Cherbourg, entre le 7 et le 16 août 1758, eh bien, c'est une semaine d'horreur, où les Anglais ayant débarqué dans l'anse d'Urville, donc complètement à l'est du port de Cherbourg, vont se livrer à des excès de tous ordres, vont piller la ville, ils vont faire surtout sauter le port de commerce avec de la poudre française. Et là, les cherbourgeois en ont voulu à l'officier qui commandait à la fois les gardes-côtes et les troupes réglées qui étaient là aussi pour la défense. Et puis, ils ont également détruit tous les bateaux corsaires, ils ont rançonné la ville, ils ont commis donc un certain nombre de méfaits sur la population. Et puis c'est là surtout où les gardes-côtes ont été véritablement la première fois mis en contact avec les Britanniques, ce qui a été une catastrophe, parce qu'ils étaient en première ligne. Et donc quand ils ont vu arriver les grenadiers anglais, qui sont quand même des professionnels, ils ont très vite détalé, tous les textes anglais le montrent. Et puis surtout, il y a eu une affaire assez dramatique où gardes-côtes se sont mélangés avec des troupes françaises, n'ont pas compris les ordres et ont finalement fusillé les soldats français qui étaient avec eux. Alors, comme politique d'amalgame, ça a été une vraie catastrophe. Et d'ailleurs, le duc d'Harcourt disait cette affaire a mis beaucoup de distance entre eux et les troupes réglées. On peut pas leur en vouloir. Port-en-Bessin, entre le 14 et le 18 juillet 1760, Port-en-Bessin, où Rodney vient chercher, courser un petit convoi de bois de marine. Port-en-Bessin, justement, très peu d'hommes. Normalement, la capitainerie alertée aurait dû rassembler 480 soldats. Eh bien, 25 sont présents. Et l'officier donc d'expliquer à M. de Brassac, qui commande la place de Caen, qui est arrivé à bride abattue, eh bien, les autres sont occupés à faire les foins. La ville est en ébullition. Les Anglais bombardent pendant 6 heures. Et ça coûte quand même la vie à des gens. Il y a 3 canonniers, justement, qui sont sur la plateforme qui est au bas de la tour qu'on connaît actuellement, qui n'est pas plus tout à fait celle de 1760, qui sont tués. Il y a un rémouleur, je ne sais pas ce qu'il venait faire par là, qui est emporté. Il y a 5 blessés graves. Enfin, c'est ce que raconte Pluquet, qui est un historien donc, du début du 19e siècle, mais qui a côtoyé, je pense, des survivants de cette époque-là. Enfin, à chaque fois que les Anglais passent, même si ça ne fait pas des dégâts considérables, c'est tout de même un véritable traumatisme pour les populations. On voit les paysans prendre leurs meubles, leurs bestiaux, leurs hardes et s'enfuir à l'intérieur du plat pays. Et on voit ces hommes rappelés à toute vitesse sur la côte, qui viennent d'ailleurs de très loin. Alors pour ceux qui sont les plus proches, c'est beaucoup plus facile, mais vous imaginez quelqu'un qui doit faire 12 km dès qu'il entend le tocsin et arriver avec son fusil, ça prend un temps fou, quoi. C'est très lent à mobiliser. Mais nos gardes-côtes sont parfois victorieux. Je vais prendre l'exemple le plus célèbre. Je pense que vous avez certainement entendu parler de Michel Cabieux, qui a laissé son nom à une salle des fêtes qui est maintenant un cinéma, à une avenue. Il a laissé aussi son nom à une fanfare et au début du siècle à une station de sauvetage. Bon. Michel Cabieux est un sergent garde-côte qui n'est pas très bien coté, si j'ose dire. C'est un maçon. Il a fait 15 jours de prison à Caen, au château, pour indiscipline. Ce n'est pas le modèle du soldat garde-côte. Et les Anglais attaquent encore, même scénario, un convoi de bois de marine qui donc vient du Havre et qui se réfugie à Ouistreham. Ils ont bien l'intention d'incendier ces navires, à défaut de les prendre. Et ils débarquent 150 hommes en 3 points. Alors il faut savoir que sur la côte de Ouistreham, sur la capitainerie, il y a 3 redoutes. Celle de Salnel, dont le corps de garde existait encore au début de ce siècle. Celle de Ouistreham et puis celle de Colville. Alors celle de Salnel tombe aux mains des Anglais. Ils font 7 morts et capturent 16 hommes à peu près. Celle de Ouistreham est bientôt prise et il s'avance, il y a un commando qui est un peu perdu, il fait nuit, il s'avance sur celle de Colville, la ville est bien sûr est en émoi, et il y a un soldat garde-côte qui est parti d'abord avec un tambour, et puis qui finalement se retrouve tout seul, c'est Michel Cabieux, et Michel Cabieux va faire un truc absolument délirant, ça rappelle un peu Steve McQueen dans La canonnière du Yangtze, dans la scène finale, quoi. Il va imaginer faire croire aux Anglais en pleine nuit qu'ils sont face à un groupe, une troupe française très, très nombreuse, très déterminée. Alors il imite plusieurs voix, enfin c'est vraiment le ventriloque. Il imite plusieurs voix, il tire un coup de fusil, il bat le tambour, il donne des ordres, il fait croire que... Bon, bref, et il tire bien parce qu'il y a un officier, ou en tout cas un sous-officier qui est blessé. Et puis les Anglais se rembarquent parce que bon, il faut dire qu'ils ont déjà tâté de la détermination des Français, non pas en Normandie hélas, mais... à 5A. C'est pas une grande victoire militaire, c'est sûr, la bataille de 5A, mais je pense que les Bretons, après avoir subi les atrocités des Anglais sur leur famille et sur leur terre, se sont donnés à cœur joie lorsque les Anglais ont dû rembarquer. Et vous voyez donc ces grenadiers qui tombent à la mer, les bras en croix, sur le coin inférieur droit, des grenadiers français qui vont sabrer d'assez près, raser d'assez près les Anglais. Enfin, c'est une affaire qui a fait un millier de morts chez les Anglais. Et donc, en 1762, ce souvenir cuisant d'une défaite britannique face aux Français est assez vif. Et donc, les Anglais se rembarquent. Ils échangent les prisonniers contre le blessé. Et on n'entend plus parler d'eux. Par contre, c'est là où l'ambivalence des gardes-côtes est très intéressante. C'est qu'en 1759, donc quelques années auparavant, l'affaire du général Cabieux, qui lui vaut quand même une petite récompense du roi, les gardes-côtes, sergents, oui, les gardes-côtes ont été embarqués comme troupes, non pas comme troupes, mais comme équipage, sur les vaisseaux de l'escadre du maréchal de Conflans, qui avait donc prévu, au lieu de subir les attaques anglaises, de porter la guerre chez les Anglais. Donc à Brest avait été réunie une escadre. Et 1260 officiers et miliciens garde-côtes bretons et normands avaient donc été envoyés diligentés, 59, hein, en novembre 59, embarqués, non pas comme troupes comme marines, on dirait, hein, pour prendre une image assez simple, mais comme équipage, c'est-à-dire pour aider à la manœuvre, ce qui enchantait pas beaucoup les officiers de mer, parce que ils avaient, évidemment, on peut comprendre leur déception. C'est vrai que les effectifs étaient éthiques. Hein. Et finalement, cette affaire du combat de Quiberon en 1759 est un le combat des cardinaux est un massacre. Ça se passe de nuit. L'escadre française est interceptée. On se bat en pleine tempête. Enfin, c'est dramatique. Et un certain nombre de gardes-côtes normands vont mourir sur le Superbe qui a coulé donc superbement et également sur le Thésée. Donc ces gardes-côtes ont servi comme équipage, et certains d'ailleurs ont plutôt bien servi, puisqu'ils ont été récompensés, pour ceux qui s'en sont sortis vivants, ils ont reçu une petite gratification pour être montés dans les hautes manœuvres. Or, monter dans les hautes manœuvres d'un navire, je ne suis pas le spécialiste de la question, mais il me semble que ça suppose quand même un certain courage, parce qu'on est déjà à une altitude, une hauteur assez respectable, et puis un minimum d'entraînement, de plus par gros temps et de nuit. Donc, ce qui veut dire que ces gardes-côtes n'étaient probablement pas tous des laboureurs, et certainement des gens qui avaient été en cheville, ou en tout cas en contact pendant des années, ou quelques années au moins, avec le monde de la mer. Et ce qui nous montre que, finalement, le monde rural et le monde maritime n'étaient pas si imperméables que cela, et que, quelque part, les milices gardes-côtes, dont Marcel Marion a pu dire que c'était une cohue incapable de rendre service, eh bien, ont mené dans le conflit, et particulièrement de la guerre de 7 ans, une petite guerre, un peu oubliée, mais une petite guerre tout de même qui a été continentale, hein, alors que, vous le savez, la guerre de 7 ans est une guerre dont les enjeux se passent, en tout cas pour la France, ailleurs qu'en France. Je voudrais finir sur Michel Cabieux, parce que pour le ministre de la Marine, ça a été un homme très important. Il avait un héros, là, alors que habituellement on prenait les gardes-côtes pour des poltrons. Alors vous avez une image, bon, ça fait penser un peu au film de pirates des années 50, de la manière dont Cabieux est représenté, avec son tambour en train de battre la générale et d'impressionner les Anglais, qui d'ailleurs sont pas du tout équipés comme une troupe de mer, mais puisque l'officier général porte une cuirasse. Donc ça, c'est une gravure qui est parue dans le Journal des Voyages en 1901. À l'époque, sous le titre évocateur de « Le sang gaulois ». Oui, c'est... Alors, le sergent Cabieux, il est mort, il y a un certain temps. Il est mort en 1804, sans postérité. 1804. 4, ouais, 10, il avait 32 ans en 1762. Il est mort très vieux, sans postérité, mais extrêmement pauvre. Mangé de galles. Il a été fêté sous la Révolution. Hyacinthe de Cussy, qui était le député l'a emmené à l'Assemblée à Paris en 1790, en disant voilà, ce beau vieillard qui était un exemple à lui tout seul. Également sous la Révolution, le conventionnel Oudot a réclamé de la nation une aide substantielle, parce que Cabieux était vraiment debout dans sa misère, comme on dit dans les textes. Et il a reçu très tardivement une petite aide, une petite pension qui lui a permis de vivoter. Mais ce qui est paradoxal, c'est que le Ouistreham, donc quelque part, il a sauvé le bourg, il a sauvé la population et les boîtes marines. Finalement, les habitants étaient assez peu reconnaissants envers cet homme qui a fait un acte assez courageux tout de même. Et il est mort donc sans postérité. Sa dernière fille est morte mendiante. Hein, alors, il reste pas grand-chose de Michel Cabieux, si ce n'est, je vous ai dit, une fanfare, un cinéma. Il n'a même pas de statut. Il y a une rue, il y a une avenue Michel Cabieux, qui est le point de départ de l'avenue Foch en plus. Alors c'est tout un symbole, mais Cabieux donc n'a pas laissé d'autres traces, on va dire, en dehors de. Enfin, il n'y a pas de statut, c'est ça qui est un peu gênant pour cet homme qui avait sauvé ce petit village. Voilà, je vous remercie de votre attention. J'ai peut-être été un peu bavard. J'ai pas eu le temps.